Nous voici donc dans la seconde partie de 1982. Pour le moment, à chaque fois que je commence une nouvelle rentrée, je me dis qu'on va être à court en termes de nouveautés. Et à chaque fois, je suis surpris de la quantité d'émissions qui arrivaient pour nous divertir. Cette année ne fait pas exception à la règle. Allez, découvrons-t-on tout cela. Générique. Traditionnel petit tour historique. En juillet, sur proposition de Robert Badinter, l'Assemblée nationale française va voter la dépénalisation de l'homosexualité. En septembre, la princesse de Monaco Grace Kelly décède dans un accident de voiture. Les milices chrétiennes des phalangistes massacrent plus de 1000 Palestiniens dans les camps de Sabra et Chatila au Liban. En Belgique, une violente tornade ravage le village de L'Église en province de Luxembourg. En octobre, Sony commercialise le premier CD-ROM audio. Ce support révolutionnera d'abord le monde de la musique, puis celui de l'informatique. En décembre, enfin, on assiste à la première exécution par injection intraveineuse aux États-Unis. Au niveau du cinéma, je commencerai par un film sorti en juillet 1982, de manière plutôt anonyme, mais qui m'avait fortement marqué lors de sa diffusion télévisée, suite à un écran témoin sur le racisme. C'est l'histoire d'une jeune actrice qui recueille un berger blanc suisse après l'avoir accidentellement renversé sur la voie publique. Elle l'emmène chez le vétérinaire et s'attache fortement au chien, mais elle se rend vite compte qu'il a été dressé pour tuer les personnes de peau noire. Julie refuse toute euthanasie et décide d'emmener le chien chez un dresseur noir pour en exorciser le racisme et le désir de tuer. Soyons clairs, ce film se termine mal et il démontre un peu ainsi comment l'humain est capable de corrompre l'animal avec ses propres vicissitudes. Une leçon apprise pour la vie. Ce film s'appelait « Dressé pour tuer », « White Dog » en anglais.
The man wounded. How did he turn him into a racist dog?
It's simple. Find a black wino who desperately needs a drink or... black junkie who do anything for a fix, and then pay them to beat that dog of yours when he was a puppy.
You got yourself an attack dog.
I don't know what you're talking about.
Hey, that dog is sick.
Then he should be cured.
Darling, the people that made him sick made him permanently sick.
Then they should be put to sleep, not the dog.
Come on, Julie, you got a four-legged time bomb.
You're my last resort. And if you don't help them, they're gonna kill him.
They should. They should, miss.
There's gotta be somebody who can help him.
I can't guarantee the result, but if I fail, I'll get another one.
Or another, and another, and keep on working till I lick it.
With that dog out of circulation, there'll be a lot of people sleep better tonight.
Beaucoup plus gai, un film sorti en août qui allait faire les beaux jours des réveillons de fin d'année dans les décennies qui suivront. C'est le retour de la troupe du Splendid dans l'histoire d'un soir de Noël à la permanence téléphonique parisienne de l'association SOS Détresse Amitié où des bénévoles sont perturbés par l'arrivée de personnages marginaux et farfelus qui provoquent des catastrophes en chaîne. Vous ne pouvez que vous souvenir du Clouc et du Doubichou. C'est en effet Le Père Noël est une ordure.
Nous allons prouver aujourd'hui que le nouveau film des Bronzés, Le Père Noël est une ordure, est plus drôle car il contient plus d'agents bidonnants. Monsieur, vous êtes spectateur moyen.
Oui.
Bon, si je vous dis anémone.
Ah, elle est marrante.
Si j'ajoute Christian Clavier.
Ah, il est rigolo, lui.
Et Gérard Jugnot.
Ah, lui.
Et Josiane Balasco. Marianne Chazelle. Et Thierry Lhermitte. Et Bruno Moineau.
Arrêtez.
La preuve est faite. Le nouveau film des Bronzés réalisé par Jean-Marie Poiret, Le Père Noël est une ordure, est vraiment plus drôle.
Je me suis tué.
Pour la première fois, le pouvoir comique d'un film est prouvé scientifiquement. Pour Le Père Noël est une ordure. Pour le film comique ordinaire.
C'est de la merde.
La preuve est faite.
Le Père Noël est une ordure, le nouveau très rigolo film des Bronzos. Non, des Bronzés, réalisé par Poiret. Jean-Marie.
Joyeux Noël, Félix.
Était également sorti pendant les vacances un film musical réalisé par Alan Parker, qui alternait séquences filmées et séquences animées sur un rythme rapide. Il ne comprenait presque aucun dialogue, la bande originale reprenant essentiellement les musiques d'un groupe qui va ainsi faire un chef-d'œuvre. Le groupe s'appelle Pink Floyd et le film The Wall.
Is there any
anybody out there?
The memories. The madness. The music. The movie. The wall.
We don't need no education.
Partons vers décembre, où deux productions Walt Disney vont sortir du lot. La première ne le fera pas à sa sortie, mais deviendra un film culte par la suite. Ce film traite du monde informatique et présente à la fois une plongée dans le monde virtuel et l'existence des intelligences artificielles. Il est célèbre pour le traitement de ce monde informatique, alors qu'à l'époque, on peut dire que l'ordinateur était peu répandu. Ce film présente également la particularité d'avoir été le premier long métrage dont la conception a été assistée par ordinateur pour la grande partie de ses scènes. Il s'agit de Tron, avec Jeff Bridges et Bruce Boxleitner.
L'aventure commence dans notre monde, de ce côté de l'écran vidéo, et plonge dans un micro-univers qui vit et respire dans les espaces de l'imaginaire. C'est le monde de Tron. Ses plans de jeux vidéo lui ont été volés.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'établir la preuve irréfutable.
Cette preuve, c'est le maître contrôle principal qui la détient.
C'est ce fichier qui excite son flair.
Je l'ai mis en mémoire.
Flynn va défier l'ordinateur le plus puissant du monde.
Allez, mon petit, fais voir ce que t'as dans le ventre. De l'autre côté de l'écran.
L'écran.
Tout avait l'air si facile.
Même un champion des jeux vidéo sera-t-il de taille à se mesurer à l'ordinateur. Tron. Une odyssée sans précédent. Un événement cinématographique. Le monde de l'imaginaire prend forme sous vos yeux.
Le même mois sort également un film de science-fiction américain de Steven Spielberg. Il raconte l'histoire d'Eliot, un petit garçon solitaire qui se lie d'amitié avec un extraterrestre abandonné sur Terre. Avec son frère et sa sœur, Eliot va le recueillir, puis l'aider à reprendre contact avec ses congénères, tout en essayant de le garder caché de leur mère et du gouvernement américain. J'en garde un souvenir ému et je me souviens l'avoir vu le jour du réveillon de Noël. Il collait bien dans l'ambiance avec l'excellente musique de John Williams. C'est bien évidemment de E.T. l'extraterrestre que je vous parle.
Dans ce quartier paisible, dans cette rue tranquille, un mystère se révèle. Et une aventure commence.
Je vais les garder avec moi.
Vivez un grand moment d'émotion. Steven Spielberg présente E.T. l'extraterrestre.
Voici pour le tour du cinéma cette année-là. Quid de notre ami la télévision? Eh bien, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes en commençant par les chaînes belges et luxembourgeoises, car en effet, elles reprennent la main sur les avant-premières. Pour commencer la rentrée, à la RTBF, on reçoit deux nouveautés pour les jeunes. D'abord, la mise à l'image de la célèbre bande dessinée de Peyo, Les Schtroumpfs, qui va avoir droit à un générique que l'on ne retrouvera pas sur Antenne 2 en 83. Mais nous en reparlerons plus tard. Redécouvrons donc ce générique purement belge francophone.
Il y a longtemps d'ici, vivait dans un pays étrange et merveilleux, des petits lutins joyeux.
Nous sommes les petits Schtroumpfs,
vous avez dit les Schtroumpfs, c'est eux les êtres heureux, qui sont toujours heureux. Petits Schtroumpfs, attention, fuyez.
Ouais, je déteste les Schtroumpfs, je t'aurai, je vous aurai, inutile de courir.
Ensuite, dans l'émission Lollipop, on va découvrir les aventures de Roddy, un enfant de 11 ans qui souhaite devenir chevalier, comme son père. Mais ce dernier, ne l'entendant pas ainsi, le confie au monastère. Roddy en fait alors voir de toutes les couleurs aux différents moines. Le dessin animé s'appelle Roddy le Petit Si. Il passera aussi sur TF1 le mercredi.
Un jeune garçon répétait autour de lui qu'il ne serait pas fermier. Qu'il deviendrait chevalier, qu'il serait
Roddy le petit si. Roddy le petit si.
On retrouve également La Vallée des Dinosaures, qui est déjà passée sur TF1 en 78. Il y a d'autres émissions telles que Ciné Vacances, Risquons Tout ou La Filière, dont je ne parlerai pas. Par contre, pour une fois, arrêtons-nous sur la musique et la variété à la RTBF. On découvre avec surprise qu'en fait, la RTBF était bien positionnée au niveau de la musique anglo-saxonne. Ce qui explique peut-être pourquoi on écoutait plus les télévisions locales au niveau musique en tant que belge francophone que les variétés sur les chaînes françaises, en tout cas les gens de ma génération. Commençons par l'ancien Chanson à la carte, qui a démarré en 72 et ne va plus durer très longtemps. En 82, il est animé par Ricky Fox et il annonce une jeune chanteuse qui débute. Je vous laisse découvrir cette chanteuse dans Chanson à la carte, c'est Kim Wilde.
Après la jeune anglaise, qu'on va avoir le grand plaisir de vous présenter ce soir, elle a 21 ans, elle s'est fait connaître il y a un an et demi avec Kids in America. Elle est là avec ses musiciens, qu'elle se considère qu'elle n'est pas seulement une chanteuse, mais qu'elle fait partie d'un groupe. Elle s'appelle Kim Wilde, son dernier concert tour, Cambodia, Kim Wilde.
L'autre émission de la grille dont le nom a marqué mon travail pour tout ce qui est site internet et podcast, c'est Génération 80. La jeune Fabienne Van de Merch reçoit des groupes au top des charts. Et que se passe-t-il en cette fin d'année ? Eh bien, je vous laisse découvrir la présentation.
Voilà, bonjour, excellente fin d'après-midi. Génération 80 qu'on vient de commencer dans la joie et la bonne humeur avec les belles stars, les charmantes jeunes filles, c'est une véritable invasion. D'ailleurs, elles sont à 6, les belles stars qui font un véritable malheur avec Clapping Song, un vieux machin des Surfs dans les années 60. Et elles n'en sont pas à leur coup d'essai puisque c'est leur troisième single, Clapping Song, et qu'elles vont bientôt en sortir un quatrième pour le mois de novembre. Et puis aussi au niveau des concerts, elles sont légèrement agitées, mais enfin, ne nous laissons pas impressionner. Au niveau des concerts, elles ont fait, vous le savez, les premières parties de groupes tout à fait prestigieux tels que Clash, Madness, Police, Pretenders et j'en passe. Alors, j'en passe, qui sont j'en passe, très amusant.
Puis également l'émission La Bonne Étoile qui est présentée par Jean Vallée. Il reçoit également plus de chanteurs francophones. Citons ici par exemple la mise en avant d'un jeune chanteur français que vous allez découvrir.
Eh bien, Julien, j'ai l'impression que Lily... Ah oui. Voudrait bien.
Faut que je m'en aille, c'est ça.
Une chose importante. Attends, reste encore une seconde. On m'a dit comment est-ce qu'il faut s'habiller pour cette émission. On m'a dit en smoking. Alors tu t'habilles en rocker, maintenant montre-nous pourquoi.
Oui, j'ai l'impression que Lily s'impatiente.
Alors si tu veux, j'enlève ma veste.
D'accord.
Je laisse ma veste,
parce que sa veste.
Enlève-la, mais ne la retourne pas.
Je vais en profiter pour dire aux spectateurs, aux téléspectateurs belges, que tu seras à Forêt Nationale le 4 et le 5 février. En attendant, voici Julien Clerc. Lily voulait aller danser.
Pour finir ce rapide tour de la chaîne belge, citons deux feuilletons importants en cette fin 82. D'abord Shogun. C'est un feuilleton qui raconte l'histoire d'un pilote anglais, John Blackthorne, qui est fait prisonnier par un seigneur local au Japon. Il découvre alors un pays dont il ignore tout et dans lequel les missionnaires jésuites portugais ont un pouvoir considérable. Protégé par le général en chef des armées de l'Est, le seigneur Toro Naga, John Blackthorne connaîtra une ascension fulgurante et deviendra ainsi samouraï. Ensuite, la programmation d'un feuilleton basé sur un roman célèbre où un marin, Edmond Dantès, est condamné pour une faute qu'il n'a pas commise. Une fois évadé, il va se venger de ses ennemis en devenant le comte de Monte Cristo. Partons maintenant sur RTL Télévision, où la télévision jeunesse continue de nous apporter de chouettes nouveautés. D'abord, un premier dessin animé pour les plus jeunes, qui s'intéresse à deux jumeaux inséparables de 6 ans. Avec leurs amis, ainsi qu'avec l'oiseau Quick et le chat Mitsu, ils nous entraînent dans leurs aventures quotidiennes, marquées par l'insouciance et l'innocence enfantine. Ces jumeaux s'appellent Gilles et Julie.
Voilà Julie, arrivons, et voici
si joli, tu viens. Comme ils sont beaux les jumeaux, avec le chat et l'oiseau, suivons-les à l'aventure. Ah voilà, Julie qui arrive, et voici Julie qui vient. Quand on est tous réunis, avec nos petits amis, comme on joue et comme on rit.
On retrouve également Tarzan et ses aventures, mais aussi deux dessins animés issus du Japon, même si les sujets ne sont pas issus de ce pays. D'abord, on trouve une série qui met en scène 6 mois d'aventure de deux jeunes garçons vivant au milieu du 19e siècle. Un enfant issu de la classe moyenne et un orphelin vagabond, son meilleur ami. Ils vivent dans la petite ville fictive américaine de Saint-Pétersbourg, dans le Missouri, à 80 km de Saint-Louis sur les rives du fleuve Mississippi. Ce dessin animé, je suppose que vous avez reconnu, s'appelle Tom Sawyer. Ensuite, un autre dessin animé que l'on a déjà rencontré sous forme de feuilleton français. Il parle d'un jeune garçon qui vit dans la montagne des Pyrénées avec son grand-père. Un jour, lorsqu'il se promène pas loin de chez lui, il rencontre une chienne, un berger des Pyrénées, que les habitants du village prennent pour un démon et pour chasse. Il la sauve et décide de s'en occuper. Ils vont vivre plein d'aventures et rencontrer plein de gens. On parle bien évidemment, une nouvelle fois, de Belle et Sébastien en version dessin animé. Au niveau des émissions, pas de chambardement. On trouve bien l'émission animalière On les appelle des bêtes ou À vous de choisir qui permet de voter pour le film du soir entre deux diverses propositions. On a bien évidemment toujours le coffre-fort ou le super jukebox par exemple. Dans les émissions de jeu, notons la prise en main de Jean-Luc Bertrand à la présentation de Léo contre tous. L'émission où un lion essayait de manger virtuellement un candidat dans un labyrinthe. Le candidat doit jouer avec sa mémoire pour essayer de se déplacer.
Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur les antennes d'RTL Télévision aujourd'hui. Et j'ai un couple également qui va affronter l'ordinateur mais également le public au grand complet. Et c'est un couple qui n'engendre pas la mélancolie, jugez vous-même. À ma droite, monsieur Claude Puterflam et mademoiselle Lio, bonjour à tous les deux.
Jean-Luc, bonjour.
Oh. Comment ça va Lio?
Ça va.
Alors, quoi de neuf?
On a aussi droit à un nouvel emballage du générique pour l'émission de jeu qui permet à de jeunes reporters de parcourir le monde et de ramener des reportages qui sont par après jugés. Cette émission s'appelait « La course autour du monde ». Passons maintenant aux différentes séries qui remplissaient la grille des programmes de RTL. Avant tout, parlons d'une série qui démarre un an avant la France et qui va durer 9 années. Elle raconte la vie de la riche et puissante famille Carrington à Denver, dans l'état du Colorado aux États-Unis. Cette série s'appelait Dynasty. Citons ensuite la présence des histoires extraordinaires, de Charlot ou encore de Challenger, dont je n'ai pas trouvé de traces marquantes. Il y a aussi les retours de séries dont nous avons déjà parlé, L'île fantastique, Star Trek ou encore L'Odyssée sous la mer. Puis quelques séries policières comme New York Police Department ou Police Story. Et pour les plus jeunes, l'arrivée de Holmes et Yo-Yo. Au niveau des vieilles séries qui sont de retour, on retrouve également 4 séries des années 70, qui n'étaient pas encore apparues depuis 75 à l'écran et qui méritent donc leur place dans ce podcast. Pour commencer, Opération Danger, qui raconte l'histoire de Hors-la-Loi, qui accède à des missions secrètes sous couverture, sous les pseudonymes de Joshua Smith et Thaddeus Jones. Tout en étant recherchés par la justice, ils affrontent alors les pires criminels de l'Ouest sauvage.
Voici Hannibal Hayes et Kid Curry, deux des plus fameux aventuriers de toute l'histoire de l'Ouest. Leur passion, attaquer les trains et dévaliser des banques, mais sans jamais tuer personne. L'audace de leur coup de main les avait rendus célèbres. Et ils étaient pourchassés sur tout le territoire.
Je ne vois plus qu'une solution. Et c'est quoi? Changer de métier.
Dans votre situation, la seule issue est de travailler pour le gouverneur, sous un faux nom. Et si vous réussissez, vous serez amnistié. Seul le gouverneur, vous et moi, serons dans le secret.
Puis également les aventures dans les îles, soit les aventures romanesques et policières d'Armand Troy, vétéran de la guerre de Corée ayant décidé de rester dans le Pacifique après le conflit. Ensuite, une série qui parle de deux frères, Rudy, joué par Peter Strauss, et Tom, joué par Nick Nolte, qui sont originaires de New York. L'un est un brillant étudiant ambitieux, qui vise le pouvoir politique et l'opulence. L'autre ne connaît que les échecs et les difficultés. De là est tiré le titre de la série, qui s'appelle « Le riche et le pauvre ». Et enfin, Docteur Caraïbe, qui met en scène les aventures de Marc Saint-Jacques, dit Docteur Caraïbe, joué par Louis Vell, ainsi que de son ami Jeff. L'un est médecin, l'autre magouilleur, qui a besoin du premier pour se sortir du pétrin. L'action se passe principalement en Guadeloupe et dans les îles environnantes. Mais il y a aussi des séries plus récentes qui arrivent sur la chaîne. Citons par exemple Quincy. C'est l'histoire d'un médecin légiste à Los Angeles qui découvre souvent des indices le conduisant à une conclusion autre que celle des services de police. Ce qui provoque fréquemment des conflits aussi bien avec son supérieur qu'avec les autorités. Ou encore le capitaine X, qui raconte l'histoire d'un jeune officier des services secrets français en 1921. Il est chargé de mettre fin aux agissements d'un espion allemand en Syrie. Malheureusement, l'amour va s'en mêler et rendra sa tâche compliquée.
Tu ne sais même pas où tu seras le jour qui vient. Je ne sais pas si mon chemin sera le tien. Alors, pourquoi s'aimer? Puisque l'amour ne sourit plus aux vagabonds de l'inconnu.
Passons maintenant sur TF1, qui tente de se remettre en marche au niveau des émissions jeunesse. D'abord, à l'aide de Croque Vacances, qui trouve pour commencer un nouveau générique, qui ne va plus changer jusqu'à la fin de l'émission. Je vous le laisse découvrir.
Vive le temps de...
Au pays de Croque Vacances, tous les enfants sont amis. Chance et croque la vie, regarde le soleil, mille étoiles, s'amuse en liberté, et la lune sous sa toile,
On y trouve les aventures d'une souris agent secret qui, accompagnée de son ami Panicard, mène les dangereuses missions que lui confie son supérieur, le colonel K. Cette souris est le titre du dessin animé, c'est Dardar Motus.
Vêtu d'un bandeau sur un œil, peut-être pour tromper l'ennemi, un agent secret se lève du fauteuil. Bon sang, mais c'est une souris. Ses deux grandes oreilles sont toutes roses, deux lettres sur son ventre supposent que c'est la super, hyper, super souris. Dardar Motus, souris aérienne.
Puis également l'histoire d'un petit lutin aux cheveux blonds. Il est vêtu tout de rouge et il possède une herbe magique qui fait de la musique lorsque l'on souffle dessus et qui révèle ainsi les mensonges. Ce dessin animé s'appelle Tofsi et l'herbe musicale. On retrouve également deux séries qui avaient déjà eu un joli succès et qui viennent renforcer l'offre, c'est-à-dire L'île perdue et La bataille des planètes. Souvenez-vous.
There once was a wealthy man who had a wonderful idea to bring children from all places with all kinds of faces together into a sailing ship. There were 40 boys and girls. They would sail their ship around the globe, so they called it Behind. The children fought the storm all night, then finally fell asleep. They didn't realize the ship had been blown across a reef. And when they woke in the morning, they saw the trees and the beach. It was the Lost Islands, the Lost.
Mercredi après-midi, on découvre un nouveau remplaçant à l'île aux enfants. C'est une émission, tout toujours de Christophe Izard, qui met en scène deux familles d'extraterrestres appelées les Abars, venues d'une planète lointaine, Arthas. On retrouve le même principe qui a fait le succès de l'île aux enfants, c'est-à-dire des personnages avec des marionnettes, mais aussi des personnes à l'intérieur de déguisements. L'émission s'appelle donc Le village dans les nuages.
Nous arrivions d'un pays sans lumière, nous naviguions sans but près de la terre, quand apparut au détour d'un nuage devant nos yeux un pays bleu, un monde à part, perché sur un nuage. Ce monde à part est un petit village qui en secret flotte autour de la terre. Viens avec nous au pays doux.
À noter pour les jeunes en fin d'année, le début d'une émission de remplacement aux visiteurs de Noël. Elle s'appellera Destination Noël. La première saison ne sera pas la plus marquante, nous y reviendrons une autre fois. En ce qui concerne les séries, une kyrielle de rediffusion, telles que Jean Pinault, médecin d'aujourd'hui, La Malle de Hambourg, toujours L'homme qui valait 3 milliards, ou l'arrivée en prime time de Starsky et Hutch. rayon des vraies nouveautés, deux sont à sortir du lot. D'abord, l'histoire de Monsieur Drummond, veuf milliardaire qui a promis à sa gouvernante mourante de s'occuper de ses deux fils. C'est ainsi qu'il accueille deux garçons noirs et pauvres, le jeune Arnold, 8 ans, et son frère Willy, 13 ans. Ils ont grandi ensemble dans le quartier défavorisé de Harlem. Arnold et Willy se retrouvent donc dans un appartement à Manhattan avec la fille de Monsieur Drummond, Virginia, également âgée de 13 ans, ainsi qu'avec une femme de ménage plutôt marrante mais adorable, Madame Garrett. Souvenez-vous du générique.
Personne dans le monde ne marche même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons les différences, c'est vrai. Au de tout, tu sais. Au de tout, c'est vrai. Au de tout pour faire un monde. Personne dans la vie ne choisit sa couleur. L'important, c'est d'écouter son cœur.
Ensuite, il y a aussi l'histoire d'une famille. Le père, Charles, qui est médecin généraliste à Mareuil, près de Pontoise, sa femme et leurs quatre filles, Claire, Bernadette, Pauline et Cécile. Pauline, la troisième fille, raconte dans cette série un peu plus de 2 ans de la vie de sa famille. Ses premiers amours, la vie, la mort, l'amitié, le travail, la famille. La série s'appelle en fait « L'esprit de famille ».
Aide-moi à avancer le dernier chagrin. Conduisez-moi jusqu'au chemin, j'ai envie.
Voici tout pour TF1. Je m'étonne moi-même d'avoir si peu de matière, mais je pense qu'à cette époque, TF1 était surtout concentré sur la variété française et les films, et n'innovait pas énormément, ce qui limite pour moi les possibilités dans le scope de ce podcast. Passons donc à la deuxième chaîne, qui, via Récréa 2, continue à truster les premières places pour la jeunesse. On y retrouve le pendant féminin de Tarzan, soit Jeanne de la Jungle, que l'on trouvera aussi sur RTL.
Je voyageais avec mon père. Il venait de m'offrir mon collier, quand tout à coup, je coulais au fond de la rivière. J'ai été repêchée par mon tarot. J'ai cherché mon père en vain. J'ai grandi en compagnie de mon tarot, de Tico et de mon jaguar blanc, Goro. Tous ensemble, nous avons décidé de faire respecter la justice dans la jungle.
On découvre également les aventures d'un petit garçon de 5 ans, fils de Bras de Fer, chef de la tribu des montagnes. Lui et ses amis vivent sur les hauteurs de la montagne de feu. Ils vivent à l'époque de la fin de l'âge de pierre, et ils passent leur journée à s'amuser en pleine nature. Ce petit garçon, c'est Koum Koum. Grande nouveauté amusante qui a bien fait tourner en bourrique les parents, Télétactica. On suit les aventures de Tactimor et Téline, qui voyagent dans le temps à bord de l'Orion. Ils sont secondés par les Verts, 4 petits personnages qui ont chacun une tâche différente. Il y a un mécanicien, un navigateur, un archéologue et un avertisseur. À certains moments de l'épisode, les téléspectateurs devaient coller des formes géométriques sur l'écran pour aider les héros. Bien sûr, ces formes géométriques, qui devaient coller avec l'électricité statique, n'étaient en vente qu'avec des journaux français, que nous n'avions pas en Belgique. Et je dois avouer que je me suis bien démené pour réussir à fabriquer ces figures sur base de papier que l'on trouvait à l'époque.
Alors tout au long de l'été, nous vous expliquerons comment marche ce télectac. Vous voyez, les petits pointillés sont revenus. Ça veut dire qu'il faut que j'enlève la feuille de plastique et l'image va redevenir normale, telle qu'elle doit être. Vous allez apprendre à faire fonctionner le Télétactica et nous jouerons ensemble au mois de septembre.
Parcourant le monde infini, des soleils éclatants, l'Orion se glisse au cœur des galaxies, dans l'espace et le temps, voyageur des profondes nuits,
Débarque également un super-héros qui a pour objectif de remplacer Goldorak dans Le Cœur des Enfants. En effet, la rediffusion vient de se terminer. La série se déroule au XXe siècle, dans un monde où la pollution est devenue un problème d'envergure internationale. Pire encore, le docteur Gori, un homme singe extraterrestre d'une intelligence diabolique, cherche à s'emparer du pouvoir en créant des créatures monstrueuses à partir de la pollution générée par les humains. Pour lutter contre lui, on envoie un agent cyborg qui doit pourtant passer inaperçu. Cette série porte donc le nom de ce super-héros, c'est Spectreman. On peut aussi citer une grande nouveauté qui va également marquer la chaîne. Il est difficile malheureusement d'en sortir un son spécifique, il n'y avait pas de générique ou de musique de lancement. C'est le Petit Théâtre de Bouvard, je vous le rappelle, mais à la limite vous pouvez taper sur internet et vous trouverez quelques sketchs qui existent. Enfin, je me dois de relever deux nouveautés qui vont marquer les esprits des téléspectateurs. Tout d'abord, un jeu télévisé français qui se positionne dans la veine des jeux de 20h et du francophonissime. Il sera présenté par Jean-Pierre Foucault tous les midis. 9 personnalités sont en effet invitées et réparties dans les 9 cases du décor sur 3 étages. 2 candidats s'affrontent alors selon le principe du jeu du morpion. Le premier candidat choisit une case avec un invité à l'intérieur. Celui-ci doit répondre à une question posée par l'animateur. En cas de bonne réponse, la case de l'invité est marquée d'une croix ou d'un rond. Et l'autre candidat doit à son tour choisir une autre case jusqu'à ce que l'un des candidats réussisse à faire une ligne de rond ou de croix. Cette émission s'appelle l'Académie des 9.
Académie des Neufs avec Catherine Rich, Arlette Thomas, Michel Leeb. Il fait son entrée dans l'Académie Claude Lemel. À ses côtés, Alice Donna, oh qu'elle est belle, Daniel Bémo. Et Laurence Arlé, Académie des 10 donc, Perrette Pradier et Gadget Sweet.
L'autre nouveauté sera l'apparition de la gymnastique faite en groupe à la télévision, avec pour objectif que les gens s'y mettent également devant leur petit écran. Les présentatrices de l'émission se donneront corps et âme pour arriver à cet objectif. Elles iront jusqu'à se filmer dans la douche. Je parle bien évidemment de Gym Tonic. Au niveau des séries, comme partout, on retrouve des nouvelles qui n'en sont pas vraiment, telles que les nouvelles Brigades du Tigre, Adams et l'Ours Benjamin, Kojak ou la seconde saison de Papa Poule, dont néanmoins nous réécoutons le générique. On retrouve également une série d'émissions appelée Les Voyages de Charles Darwin, sur les origines de la loi de l'évolution. Mais, de nouveau, pas de traces de générique ou de son intéressant. Dernier démarrage néanmoins remarquable, une nouvelle série qui part dans le Dimanche Martin de Jacques Martin. C'est l'histoire de Colt Sivers, un cascadeur d'Hollywood qui exerce le métier de chasseur de primes lorsque le cinéma ne lui fournit pas assez de travail. Son ami Terry lui demande sans cesse de retrouver des personnes libérées sous caution et en fuite. Ceci afin de les arrêter pour qu'elles soient jugées. Son cousin Howard et la belle Jodie, tous deux également cascadeurs, l'aident à retrouver les fugitifs. On retrouve aux commandes de la série l'acteur qui a porté pendant des années l'homme qui valait 3 milliards, c'est-à-dire Lee Majors. Cette série est bien sûr L'homme qui tombe à pic.
Je ne suis pas le genre de mec qui aime la bagarre. Faut pas me pousser trop loin, tu vois, et faut pas me chercher.
Même si je suis cascadeur, j'ai quand même l'amour dans le cœur. Je préfère jouer au tombeur que jouer au catcheur. Je suis l'homme qui tombe à pique, je suis l'homme qui vient de loin. Et dans ma peau de flic, je n'ai jamais peur de rien. Je suis l'homme qui tombe à pique, j'ai ma vie entre les mains. Et si je prends des risques, ça n'est jamais, jamais en vain.
Passons maintenant sur la 3 pour terminer l'épisode. Après avoir terminé l'histoire de l'humanité, Albert Barillet décide de tenter l'aventure de la fiction et déplace son équipe, Pierrot, Petit Gros, Psy, Maestro, en ajoutant le robot Métro, dans un futur spatial où la collaboration avec des races extraterrestres est possible. Le dessin animé s'appelle Il était une fois l'espace.
Sur les chevaux du vent, le futur, l'aventure nous fend face, laisse-moi.
Dans la logique de republication de vieilles séries, FR3 s'y met aussi. Et voici réapparaître le dimanche Rocambole, qui relate les aventures d'un rôdeur de barrières, repenti, qui est devenu justicier en marge de la société. Souvenez-vous. On trouve également une émission de télévision essentiellement consacrée aux classiques du cinéma américain. Elle est présentée principalement par le chanteur et acteur Eddie Mitchell. Cette émission s'appelle La Dernière Séance.
Bien, bonsoir. C'est le numéro 1 d'une série qui s'appelle La Dernière Séance. Et ce soir, vous allez pouvoir regarder un film riche en aventure ou en couleurs.
Dans les nouveautés, on retrouve une série anglaise qui est une adaptation d'œuvres de Roald Dahl et notamment de ses recueils de nouvelles horrifiques. C'est une série qui s'appelle Bizarre Bizarre. Enfin, impossible de quitter cet épisode sans faire mention du démarrage d'une émission de télévision humoristique présentée par Pierre Desproges, qui immortalise son célèbre « étonnant, non ?» qui conclut chaque épisode. Il se joue des sujets, qu'ils soient sacrés ou bien tabous. C'est la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède. En voici un extrait.
Démuni de tout, écartelé entre le prix exorbitant du topinambour et la hausse inexorable des loyers des taudis, le pauvre crie famine.
Famine !
Merci. Digne dans la douleur, sublime de résignation, ces malheureux sont nombreux à me faire part de leur souhait de ne pas mourir sans savoir à quoi ressemble un gros billet de banque. Car l'argent, disent-ils, on en entend souvent parler, mais on n'en voit pas souvent la couleur. Eh bien, chers pauvres, soyez exaucés. Vous allez enfin voir la couleur de l'argent. Regardez bien. Alors, voyez-vous, c'est jaune. Enfin, c'est dans les jaunes. Étonnant, non?
Et voilà, c'en est fini de 1982. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à 83. Et là, je vous avoue que, de prime abord, le cinéma commence à vraiment prendre de la place. Mais ce sera pour une prochaine fois. En attendant, comme le disait le narrateur dans Les Mystérieuses Cités d'Or...
Au revoir. À bientôt.